Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneau.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 7h.
C'est un électrochoc dans le pays de par le nombre de rassemblements. Maintenant, c'est le retrait de la proposition de loi sécurité globale et la réécriture du schéma de maintien de l'ordre.
Plus de 130 000 Français dans les rues, selon la police. Des manifestants qui réclament le retrait de la loi sécurité globale. Le gouvernement peut-il reculer? On verra cela avec Aurélie Herbemont.
Les commerces ont rouvert dans toute la France hier. Et pour rattraper les pertes, certains envisagent d'ouvrir beaucoup, beaucoup plus tard le soir.
Les professionnels de la montagne veulent se battre. Ils n'acceptent pas la fermeture des pistes jusqu'au mois de janvier. Mike Tyson de retour sur le ring 15 ans après. Et puis un jeu vidéo pour transformer votre appartement en discothèque.
Oh,
Clément Le Saffre l'a testé pour vous, on verra ça.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les manifestants l'avaient renommé la marche des libertés. La journée de mobilisation hier contre la loi sécurité globale a rassemblé plus de 130 000 personnes selon la police.
Et plus de 500 000 selon les organisateurs, avec des défilés dans une centaine de villes pour demander donc la suppression de ce texte et notamment de son article 24 qui concerne la diffusion d'images des forces de l'ordre. En pleine polémique sur les violences policières, les manifestants se réjouissent de la mobilisation. Reportage dans le cortège parisien de Mathieu Bock.
En se tenant par le bras un peu à l'écart des derniers manifestants qui refusent de quitter la place de la Bastille, Noémie et Kevin en sont persuadés. Cette manifestation marquera les esprits. Rien que le nombre de participants a impressionné ce jeune couple.
Beaucoup plus que je l'aurais pensé. Il n'y a plus de questions à se poser. Ça ne peut pas être plus clair. Maintenant, la suite, c'est continuer à garder le mouvement pour effectivement que cette loi ne passe vraiment pas. Bah, s'ils ne comprennent pas, que faire par la suite?
Moi, je pense qu'il n'y a plus de discussion possible. Déjà, cette loi, pour moi, elle aurait même jamais dû sortir. C'est grave ce qui est en train de se passer. Et je pense que si ça passe, c'est le début de quelque chose de terrible, en fait.
Pour le journaliste Emmanuel Vire du SNJ-CGT, cette manifestation doit sonner le glas de l'article 24.
Il faut qu'aujourd'hui, ce soit un électrochoc. Évidemment, c'est un électrochoc dans le pays de par le nombre de rassemblements. Mais il faut qu'aussi, on voit le pouvoir qui est paralysé. C'est terminé, des fausses commissions, Théodule, etc. Maintenant, c'est le retrait de la proposition de loi sécurité globale et la réécriture du schéma de maintien de l'ordre.
Et signe que les organisateurs croient dur comme fer que leur coup de force fera reculer le gouvernement, aucune autre manifestation contre l'article 24 n'est prévue pour le moment.
Un reportage de Mathieu Bock et des affrontements ont éclaté à la fin de la manifestation à Paris. 27 personnes ont été placées en garde à vue. Une vingtaine de policiers ont été blessés dans la capitale.
Hier, toute la gauche a appelé au retrait tout simplement de cet article 24, de Jean-Luc Mélenchon à François Hollande, qui a pris la parole. Que va-t-il se passer désormais? Élément de réponse avec Aurélie Herbemont.
Un texte rattrapé par le contexte, voilà pourquoi ce marcheur prédit une mort certaine à l'article 24. Sauf que le ministre de l'Intérieur n'a pas l'intention de reculer. Renoncer ferait perdre le soutien de la droite, qui accuserait l'exécutif de lâcher les forces de l'ordre. Alors qu'hier, des policiers ont été violentés par certains manifestants venus casser du flic, l'exécutif doit trouver une porte de sortie pour concilier protection des policiers et liberté d'informer, dit Matignon. Même si un proche d'Emmanuel Macron voit dans la manifestation un mauvais procès, il y a un mois, il était attaqué de partout car il répétait qu'en France, il défendrait toujours la liberté de la presse. Ça n'empêche pas la Macronie de phosphorer pour faire redescendre la pression. Certains suggèrent de s'inspirer du texte contre le séparatisme qui comporte une disposition proche, modifiant le code pénal et pas la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Une chose est sûre, le gouvernement veut trouver une solution d'apaisement sans attendre l'arrivée du texte au Sénat début 2021, même si ce n'est que là-bas qu'il pourra officiellement être réécrit.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1, cette crise qui secoue l'exécutif. Hervé Gattegno nous en parlera dans son édito de 8h40.
Et puis juste avant, dans le journal de 8h, nous serons avec le secrétaire général de l'UNSA Police, Thierry Clerc, pour évoquer de possibles réformes de l'IGPN et de la formation des policiers notamment. S'agissant de l'enquête de l'IGPN, justement ouverte après l'agression de Michel Zecler, 4 policiers sont toujours placés en garde à vue.
7h04, autre titre de l'actualité, vous l'avez évidemment remarqué hier, vos magasins ont rouvert.
Ils ont en effet obtenu cette réouverture à moins d'un mois de Noël en cette période. Chaque jour compte et chaque heure même. Certains commerçants qui ouvrent déjà le dimanche veulent également étendre au maximum leurs horaires pour limiter la casse. Reportage à Lille de Maximilien Carlier.
40 000 euros, c'est le chiffre d'affaires que fait habituellement ce magasin de jouets situé en plein centre-ville au mois de novembre. Cette année, avec le confinement, rien, ou presque. Agnès, la responsable.
C'est de la perte sèche, donc naturellement, on ne rattrapera pas. C'est pas possible.
Pour limiter la casse, ouvrir tous les dimanches en décembre, étendre ses horaires d'ouverture jusqu'à 21h, mais là encore...
Si les clients sont au rendez-vous, pourquoi pas, hein, on le fera de toute façon, il n'y a pas de souci. On est là, on est là. Mais ça implique du personnel.
Des salariés qu'il faut payer en plus, et ça, ça a un coût non négligeable. Romuald Catoire, président de la Fédération Lilloise du Commerce, de l'Artisanat et des Services.
Un magasin qui travaille, où on travaille à deux vendeurs, c'est 6 jours pour travailler un dimanche. Parce que c'est payé double et récupéré. Ça représente 6 jours en réalité de masse salariale.
Mais parfois, certaines boutiques manquent de trésorerie après les semaines et mois de fermeture. Une des pistes évoquées, c'est peut-être d'élargir encore ces plages horaires.
On le sait, sur Internet, le pic de consommation, c'est le soir. C'est 22h, 23h. Est-ce que l'avenir du commerce physique, ça n'est pas de s'adapter à ces nouvelles habitudes de consommation?
Et organiser ainsi des shoppings nocturnes, plus souvent, ce qui a déjà été mis en place cette année en juillet, lors des soldes. Lille, Maximilien Carlier, Europe.
Magasin donc rouvert et le compte à rebours lancé avant Noël, il reste tic-tac-tic-tac 4 semaines.
Et c'est donc l'occasion de faire un petit point sur les tendances qui commencent à se dessiner en matière de cadeaux. Vous êtes peut-être très en retard, alors ça vous donnera des idées. On va voir ça avec vous Aurélien Fleureau. L'une des tendances, clairement, c'est le circuit court des cadeaux achetés autour de chez soi.
Oui, même si les cadeaux Made in China ne vont pas disparaître d'un coup, de très nombreuses initiatives locales sont nées ces derniers jours. Un exemple près de Cherbourg, Anaïs Mouchel avait créé Local Manche lors du premier confinement. Cet annuaire de producteurs locaux propose désormais un marché de Noël virtuel avec des idées de cadeaux fabriquées en Normandie.
On va vers des créations uniques, en série limitée. On peut personnaliser. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand on achète en grande consommation. Enfin, je pense par exemple à un sac à main. On peut rajouter le détail qui fait que il va être unique et que la personne va le voir autrement et l'apprécier autrement sous le sapin quoi.
Et puis il y a aussi des plateformes en ligne qui mettent en avant des idées de cadeaux made in France. C'est par exemple le cas du site Merry Clickmas qui vient d'être réalisé par des bénévoles et qui regroupe plus de 200 créateurs français.
Merci pour le jeu de mots Aurélien. On a ces tendances bien sûr, mais dans la pratique il y a encore beaucoup d'incertitudes hein, sur la manière dont les Français vont s'organiser.
Oui, c'est impossible de comparer avec les années précédentes. Le calendrier est totalement décalé et selon Yves Marin, spécialiste de la distribution au cabinet Bartel, la quasi-impossibilité de flâner dans les boutiques aura forcément des conséquences.
Parce que le temps de shopping réduit, parce que les conditions sanitaires devraient mécaniquement être favorables aux ventes en ligne. Où là, je peux prendre le temps de surfer, de trouver le t-shirt rigolo pour Tati, Jacqueline et tout ça. Donc ce frein aux achats d'impulsion dans les magasins physiques va probablement reporter encore plus une partie des achats vers les e-commerce.
Incertitude également autour du budget prévu pour les fêtes. Ce sera le grand écart entre les foyers les plus aisés qui ont pu épargner ces derniers mois et ceux qui, au contraire, ont vu leurs revenus baisser.
Ouais, faudra que ça plaise à Tati Jacqueline. Merci beaucoup Aurélien Fleureau.
Le plafond d'indemnisation pour les entreprises qui restent fermées a été doublé hier. Il passe de 100 000 à 200 000 euros, dans la limite toutefois de 20% du chiffre d'affaires de l'année précédente.
Et il en sera question bien sûr au grand rendez-vous d'Europe 1 tout à l'heure à 10h, puisque c'est Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui est l'invité de Mickaël Darmon. Ils n'ont pas digéré l'annonce d'Emmanuel Macron mardi dernier. Les professionnels de la montagne ont bien l'intention de se battre.
Ils ont appris cette semaine que les stations seraient accessibles, mais que les pistes de ski, en revanche, resteraient fermées au moins jusqu'au mois de janvier. Pas de ski donc à Noël, ce qui représente un énorme manque à gagner. Une nouvelle réunion est prévue demain avec le Premier ministre. En attendant, la frustration se propage dans les vallées. Marion Gauthier.
C'est quelque chose qui est extrêmement frustrant et qui touche un peu.
Les remontées mécaniques désespérément statiques. Fabrice Boutet est exploitant aux Deux Alpes, une station qui avait rouvert sans encombre à la Toussaint.
Toute l'organisation des queues a été réalisée, les télécabines ont été sécurisées, ce qui nous a permis de tester un peu tous nos protocoles. On est prêts.
Prêts comme à Avoria, les saisonniers déjà engagés, les stocks des commerçants déjà faits, mais 90% des réservations pour Noël annulées ou reportées parce que ce sont les télésièges plus que les descentes de luge qui attirent les vacanciers. Le directeur de la station, Sébastien Mérignargue.
Il est évident que des structures comme les hôtels qui ont des charges fixes importantes se retrouvent dans l'impossibilité d'ouvrir ou quasiment. Donc oui, il va y avoir des conséquences importantes au niveau humain et en termes d'emploi.
Des conséquences d'autant moins acceptables que les voisins suisses et espagnols peuvent skier, glisse Jean-Luc Bock. Il est maire de la Plagne Tarentaise et président de l'Association nationale des maires des stations de montagne.
Vous avez des stations françaises qui sont à 5-10 km d'Andorre. Vous trouvez ça juste, vous ?
Jean-Luc Bock qui demande au gouvernement d'attendre attendre le 15 décembre pour véritablement statuer après avoir contrôlé le taux d'occupation des hôpitaux de Valais.
Marion Gauthier, la deuxième phase du déconfinement le 15 décembre prochain est soumise à un objectif sanitaire, hein, 5000 contaminations par jour. On en est encore loin avec plus de 12 000 cas ces dernières 24 heures. S'agissant de la vaccination, elle pourra débuter en janvier pour 1,5 million de Français, des personnes âgées et des soignants. Des hôpitaux référents devraient par ailleurs être désignés sur le territoire pour le stockage des vaccins, selon le journal du dimanche. Et puis 8 migrants ont été blessés la nuit dernière, touchés par un incendie qui s'est déclenché dans leur foyer du 18e arrondissement de Paris. 5 d'entre eux ont été hospitalisés, plus de 350 personnes ont été évacuées.
Il est 7h10, les légendes sont éternelles, on en a eu la preuve cette nuit à Los Angeles.
Et oui, avec le retour d'une légende de la boxe, Mike Tyson, 54 ans, est remonté sur le ring lors d'un combat d'exhibition. Benoît Clerc, notre correspondant à Los Angeles, a suivi ce combat.
À ma gauche, Mike Tyson, 54 ans, 90 kilos. À ma droite, Roy Jones Jr., 51 ans, 85 kilos et 116 victoires à eux deux en un combat exhibition que leurs fans attendaient depuis plus de 20 ans ce soir. Sur les côtés du Staples Center de Los Angeles, 300 spectateurs seulement dans une salle qui pourrait en accueillir 20 000 et un arbitre qui s'appelle Monsieur Ray Corona. Au final, même si Tyson a dominé, les juges déclarent un match nul, mais c'est surtout un immense business. 10 millions de dollars pour Tyson, 3 pour son adversaire et un match regardé par près de 15 millions de spectateurs à travers le monde qui ont payé 50 dollars chacun pour rester devant leur télévision. Pandémie oblige. Thriller, le concurrent du réseau social TikTok, a lui acheté les droits télévisés pour 50 millions. Pour ne pas risquer d'accident, les organisateurs ont changé les règles. 8 rounds de 2 minutes au lieu des 12 traditionnels de 3. Pas de chaos autorisé, aucun vainqueur déclaré. On arrête le match à la première goutte de sang et les paris ne sont pas autorisés. Tyson a promis de donner ses gains à des organisations caritatives. Dès demain, il repart dans son ranch de 500 hectares à l'est de Los Angeles où il cultive et vend des produits à base de marijuana. À Los Angeles, Benoît Clerc, Europe 1.
En rugby, le 15 de France s'est qualifié hier pour la finale de la Coupe d'automne des Nations. Les Bleus ont battu l'Italie 36-5.
Et ce sera l'un des moments forts d'Europe 1 Sport. Ce soir, Lionel Rousseau reçoit Bernard Hinault, le blaireau dont les prises de parole sont, il faut le dire, assez rares.
Hein. Hinault, dernier Français à avoir remporté le Tour de France. Et il attend toujours son successeur.
C'est difficile parce qu'on n'a pas le super champion, style Evenepoel ou Van Der Poel ou Bernal. Qui est présent. Il faudrait être présent à 18-19 ans, être déjà dans la grande classe, c'est-à-dire être chez des professionnels et de jouer déjà avec les meilleurs. Et ça, on n'a pas malheureusement ce type de coureur.
Bernard Hinault qui sera l'invité de Lionel Rousseau ce soir dans Europe 1 Sport. Enfin, je sais Pierre que les discothèques vous manquent terriblement. Ah bah, vous trépignez d'aller danser après la matinale.
Mon déhanché attend.
On a hâte de voir ça. Mais en tout cas, j'ai la solution pour vous. Clément Le Saffre, enfin la solution, un jeu vidéo pour devenir DJ.
Fuser vous place d'emblée sur la scène d'un gros festival avec public, lumière et fumigène. En face de vous, 4 platines pour mixer des morceaux. Il y en a une centaine, des hits des années 70 à nos jours, de l'électro bien sûr, mais aussi du rock, du rap et de la pop. J'ai donc puisé dans ce bac à disques pour créer des enchaînements dignes, je l'espère, de David Guetta. Chaque morceau est décomposé en 4 pistes, la batterie, la basse, la partie rythmique et le chant. L'idée est de mixer des parties de morceaux différents pour trouver la combinaison qui fera danser les foules. Et c'est toute la force de Fuser que d'arriver à vous faire croire que n'importe qui peut être DJ à Ibiza, c'est très accessible. En 2 heures à peine, je suis arrivé moi à créer un mix à peu près audible avec Nicki Minaj, Donna Summer, Billie Eilish et même A.A. réunis par la magie du jeu.
Et ben on va tenter ça nous aussi alors.
Bah ouais, moi je vois. Il n'y a pas de Saturday Night Fever quand même. Tiens, à propos de Saturday Night Fever, une mini promesse là, mais c'est en bonne route, peut-être pour mois de janvier. Je vous en dis pas plus, mais on aura peut-être une belle surprise dans cette matinale. Merci beaucoup, ma chère Marguerite Lefebvre. À tout à l'heure pour le journal de 8h.